Info, c'est votre rendez-vous avec l'Université Lille-1 tous les mercredis entre 17h30 et 18h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Fabrice Cuvillier, qui est directeur du service universitaire d'activité physique et sportive à l'Université Lille-1. Bonjour M. Cuvillier.
Bonjour.
Donc on va parler pendant une demi-heure d'un sujet, le sport à l'université et notamment à Lille-1. Alors, tout d'abord, le sport, c'est quelque chose qui est ancré depuis tout le temps dans l'Université Lille-1, enfin depuis que je la connais, au moins depuis 1970, ça existe?
Oui, ça fait un certain temps, puisque le service des sports vient de fêter avec l'ensemble des services des sports de France leur 40e anniversaire. Donc effectivement, je pense que 70-2010, ça correspond à cette date, donc vous faites partie des anciens.
Mmh, tout à fait. Donc... Quelle est la mission du sport sur l'université? C'est d'envisager éventuellement des pratiques de haut niveau ou c'est surtout d'assurer la santé, la bonne forme des étudiants, voire une bonne forme qui contribue à la réussite de leurs études?
Alors, nous avons donc vaste question. J'ai envie de dire, on a plusieurs missions, dont celle que vous venez d'évoquer. Donc la première mission, j'ai envie de dire, c'est une mission axée sur la formation. Formation, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des étudiants présents sur le campus de Lille-1 de pouvoir participer aux activités physiques et sportives proposées par le SUAPS de Lille-1 tout en étant évalués, notés et donc contribuer en partie à leur réussite universitaire. C'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est de leur permettre d'avoir des pratiques autonomes, libres, en soirée, en journée et si possible associatives. Donc on est amené depuis 2-3 années à avoir un gros travail de relation avec les différentes associations de l'Université de Lille-1. Un troisième aspect est lié aux pratiques compétitives, donc faire en sorte que les étudiants de Lille-1, compétiteurs, performeurs, puissent représenter leur université au niveau national, régional. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal classé. Voilà, on a plusieurs objectifs qui, à partir de là, vont contribuer au bien-être de l'étudiant, une meilleure santé, à créer du lien social, à rassembler les étudiants, à faire en sorte... C'est un peu le leitmotiv de notre... depuis 2-3 ans, c'est globalement une voie originale pour faire vivre le campus universitaire.
Mmh. Est-ce qu'une partie de ce sport à l'université est obligatoire et sanctionnée, on va dire, d'une certaine manière?
Alors certaines écoles, alors là c'est paradoxe un peu, mais c'est normal. Les grandes écoles, enfin les écoles d'ingénieurs comme Polytech, ont rendu le sport obligatoire. Le NCL a rendu le sport obligatoire. D'autres filières commencent maintenant à rendre le sport pratiquement obligatoire dans le cadre du cursus, c'est-à-dire au moins ce qu'on appellera un crédit ECTS pour certaines licences. C'est le cas de l'avancée significative qu'a pu proposer les SVTE ainsi que d'autres filières, mais... je crois qu'il serait bon dans cette université que le sport permette, soit autorisé au moins une fois dans le cursus avec une reconnaissance en termes de notation, de prise en compte dans les examens.
Mmh. Néanmoins, on peut très bien faire de très belles études sans forcément faire de sport. On peut admettre cette liberté ?
On peut admettre cette liberté, mais voyons maintenant l'aspect intéressant de cette pratique sportive au-delà du simple cursus universitaire et pourquoi le rendre, j'allais dire, non pas obligatoire, mais créer toutes les conditions pour que les étudiants y passent. Il y a un aspect, je dirais, social, politique. C'est, l'université, c'est le dernier moment, alors il y avait l'armée avant, mais c'est fini, où l'ensemble, ou un gros... une grosse partie de la population française termine globalement et a la possibilité de faire du sport. Donc il y a l'aspect démocratisation de l'accès aux pratiques physiques et sportives. C'est une ambition très forte. La deuxième chose, c'est un exemple que je vais vous prendre qui m'avait frappé, Tour de la Défense, reportage de TF1, où on voit des cadres de la Défense entre midi déjeuner. Certains sont... en train de faire du squash, du badminton, de se détendre, de faire du cardio, etc. D'autres sont tablés, n'osent pas. On se rend compte que les gens qui ont pratiqué, qui ont fait une pratique sportive, qui en font une, sont plus à l'aise dans l'entreprise, sont plus à l'aise dans le milieu dans lequel ils évoluent que ceux qui n'ont pas vécu tout ça. Donc je crois qu'on a un apport original pour à la fois mieux s'intégrer sur le campus, créer du lien social et par la suite contribuer, je veux dire, à un bien-être normal. Que, voilà. Là, je viens d'assister à un colloque sur l'entreprise et le sport. On se rend compte que, voilà, je pense que l'université, c'est le dernier moment où on peut permettre à ces étudiants d'accéder à une pratique sportive et à une culture sportive qui leur permettra par la suite d'être bien.
Alors, vous venez d'évoquer le cas d'école qui intègre le sport obligatoire à un moment donné où l'armée n'existe plus en termes de circonscription. Est-ce que, justement, le fait de cette hiérarchie, de cet appel, quelque part, de cette formation à une forme d'obéissance ou de respect de certaines contraintes, sinon de certaines valeurs, c'est quelque chose qui est aussi sous-jacent?
Je ne parlais pas d'obéissance, de contraintes. Ça, c'est... Bon, il y avait plusieurs théories dans le passé, quand j'ai fait mes études, hein, sur une tendance qu'on va appeler « gauchiste », entre guillemets, qui était sur le sport, répression, etc., etc. Puis un sport-culture que je défends, que j'ai défendu depuis que je suis enseignant, qu'on a défendu avec la profession. Le sport et culture. Donc après, il y a toutes les déviations possibles autour du sport. On est sur un sport humaniste, un sport inhumanitaire. On est sur un sport ayant des valeurs de solidarité, d'intégration, de coopération, de bien-être. Je crois que c'est vers cette voie-là qu'il faut aller, voilà. Donc les déviations du sport, bon, c'est comme pour la culture, c'est comme pour toutes les pratiques humaines, elles sont à la fois humanitaires et certaines peuvent être déviées par le commerce, voilà. L'obéissance, non, je pense pas. Il y a des règles, des valeurs qui sont intégrées dans le sport, qui font qu'à un moment donné, effectivement, pour être performant, bah, il faut être assidu à un entraînement, à une certaine rigueur, etc. Mais il y a aussi le sport plaisir, loisir, détente, bien-être, et tout ça fonctionne très bien ensemble.
Donc ce sport, on peut le retrouver maintenant aussi dans les pratiques, j'allais dire, théâtrales, ou les pratiques de danse, ou des pratiques culturelles. Il y a un festival, la Quinzaine de l'Entorse, par exemple, tous les ans à Lille. Est-ce que vous êtes au courant de ce festival?
Pas du tout, mais bon... Alors le débat que vous soulevez est un débat qui traverse la profession des enseignants d'éducation physique. Hein. C'est la place des activités artistiques, qu'on appelle les APSA, donc activités physiques sportives et artistiques. La cohabitation de la danse, de ces activités, on va dire, annexes. Donc c'est un débat qui date de vingtaine d'années. Alors, je m'étais inscrit un peu en faux. J'aurais préféré, moi, voir arriver des profs de danse, vraiment des véritables profs de danse dans le système scolaire et universitaire. Bon, l'éducation physique a pris tout ça en charge, pourquoi pas. Mais c'est une autre dimension liée à des pôles, relations qui ne sont pas identiques à la pratique sportive. Mais on est encore sur les pratiques culturelles. Et non, le festival de l'Entorse, je ne le connais pas. Vous allez me l'apprendre. Vous allez peut-être me faire découvrir quelque chose de nouveau.
Bien sûr.
On est, nous, ancrés sur l'université avec pas mal de choses que l'on va mettre en place.
Donc, le festival de l'Entorse, ça a été initié par des étudiants de l'Île 2 dans le cadre de droit et santé. Et l'idée, c'était de montrer différentes facettes du sport et notamment de mettre en scène des spectacles autour du sport d'une manière générale.
D'accord, ok.
Donc tous les ans, ça existe à peu près à la même période. On peut voir ce festival surtout à la Maison Folie Oisem, voire à l'Île 2, bien sûr, à l'Entre-deux, la salle de spectacle de l'Université Lille 2. Donc effectivement, ce sport intéresse les praticiens, ça intéresse aussi les pédagogues, comment faire qu'un enseignement soit harmonieux, c'est un peu votre propos aussi.
Ah bah, toute la question, quand on parle de démocratisation de l'accès aux pratiques physiques et sportives, on a deux voies possibles, enfin moi j'en vois qu'une plutôt. C'est quels sont les contenus qu'on va mettre en œuvre, les pratiques qu'on va mettre en œuvre pour que l'ensemble des étudiants qui nous arrivent réussissent. Il y a l'autre voie qui est la pratique compétitive où l'objectif c'est de sélectionner les meilleurs pour représenter. La voie, on va dire, de formation, c'est vraiment une voie qui interpelle l'enseignant pour comment créer les conditions, quelles conditions mettre en place pour qu'à un moment donné un étudiant réussisse et arrive sur le plan sportif, sur le plan de la culture physique, à progresser. Donc on n'est pas là pour éliminer, on est là pour, au contraire, amener le plus grand nombre à la meilleure transformation physique, meilleure transformation sportive possible dans le temps qui nous est donné.
Alors, certains enseignants regrettent une baisse du niveau de la langue française, notamment de l'écrit, hein, la pratique de l'orthographe. Est-ce que vous constatez aussi, vous, que les élèves qui viennent du lycée, enfin les étudiants qui proviennent du lycée, ont une sorte, au fil du temps, une perte de niveau en sport?
Alors, je vais presque dire, on a une caractéristique sur le plan de l'éducation physique et sportive, et donc du sport, mis à part... Donc la population qui est sur la performance et qui est en club, c'est que la voie scolaire, donc pour un individu lambda qui fait un cursus uniquement dans le cadre scolaire, on s'aperçoit qu'il y a très peu de progrès dans le cadre des activités physiques sportives, bon, qui sont dues au manque de temps de pratique et à des pratiques très diverses et variées qui font qu'à un moment donné, le progrès dans la discipline X définie, par exemple comme le basket, en 5 périodes de 12 séances, fait qu'à un moment donné, l'individu ne va pas à un progrès tel que l'on pourrait l'imaginer. Donc, il y a effectivement, je ne m'amuserais pas à me comparer aux Français, mais on se rend compte qu'avec l'âge, effectivement, le niveau de performance évolue pas toujours dans le sens du progrès. Mais en même temps, sur l'île 1, nous ne sommes pas uniquement là, enfin, l'université, parce que mes collègues, je pense, de l'île 2 et de l'île 3 sont un peu dans la même logique, nous ne sommes pas là uniquement pour, évaluer, noter la performance en tant que telle, mais l'implication des étudiants, leur progrès, leur intégration, leur capacité à prendre en charge un événement. Donc autour du sport, d'autres possibles, entre guillemets.
Alors quand on dit le sport, c'est un mot global. Il y a beaucoup de disciplines ou d'activités très différentes. Est-ce qu'il y a des activités qui sont à la mode et comment vous y répondez?
Alors il y a des activités à la mode. Je dirais que c'est encore aussi un vieux débat dans la profession. Comment motiver les étudiants, etc., par des nouvelles activités. Donc, je pense que la question de fond, elle est sur les contenus, c'est-à-dire quel contenu proposer pour rendre attractif une activité. Donc, les activités à la mode, pour répondre à votre question, on en a. Bon, dans le milieu étudiant, on sait qu'on n'est plus dans le milieu lycéen. Il y a des activités comme la musculation qui sont très prisées, des activités liées autour du combat, par exemple le self-défense qui intéresse beaucoup les jeunes filles, le fitness qui intéresse beaucoup les jeunes filles également. Moi, cette année, j'ai essayé un nouveau contenu sur le sport, enfin sur le bien-être et musculation, une façon de voir autrement la musculation qui attirait des demoiselles qui étaient emballées pendant 12 séances. Bon, il y a comme ça des activités qu'on a en support, il y a des activités classiques comme le volley, le badminton, voilà. Des activités qui marchent et qui marchent moins bien 4-5 années après. Bon, tout ça, ça évolue. Et on essaye de prendre un peu la température et de répondre le plus possible aux besoins et aux demandes exprimées.
Alors, vous l'avez dit, le sport, c'est aussi du lien social. Certains aspects du sport sont des sports très collectifs, etc. Est-ce qu'il y a une ambiance de club, parfois, qui se dégage dans certaines disciplines?
Alors, il y a des ambiances donc, de club ou d'association. Bon. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans, j'avais devant moi toute une histoire et donc une façon de faire qui fait que je me suis déplacé un samedi après-midi dans une des salles et je me suis aperçu, je voyais 10 étudiants en train de jouer au basket. Bon, la salle était prêtée à une association X. Une heure après, c'était encore 15 autres étudiants d'une association Y qui fonctionnait. Et puis voilà. J'ai dit ça, j'en veux plus. On parle d'intégration, on parle de solidarité, on parle d'échange, etc., etc. Et là, j'ai du communautarisme ou ethnique ou de formation. Plus possible de fonctionner comme ça. On va changer de braquet, on va passer les gymnases maintenant sur des activités précises. Et c'est une association qui va prendre en main l'activité et qui va avoir l'obligation d'accueillir d'autres associations. Ce phénomène est en train de se mettre en place. Ça se passe très bien. Donc, on voit maintenant des Chinois jouer avec des Guinéens jouer au foot avec des Gabonais, des Centraliens et des BDS. Donc, l'idée maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte que le week-end, lorsque les possibles sont réalisables, que des associations se retrouvent ensemble et fonctionnent ensemble. Ça, c'est, je pense, un gros objectif. C'est pas atteint. Je voudrais qu'on sorte du système qu'on pouvait nous présenter comme étant un bon système, qui était le système anglo-saxon ou américain, où les étudiants viennent, font leur sport et s'en vont, là, qu'on crée des conditions autour du sport à ce qu'il y ait des rencontres. ça va se concrétiser. Et ça se concrétise depuis 2 années par des rencontres lors du festival Mixité ou d'autres moments dans l'année où sont organisés avec le service des sports et l'association sportive des tournois inter-assos. Et cette année, nous espérons monter une énorme semaine sportive au mois de mai qui fera que pendant 2 jours, les associations œuvrant sur le campus se rencontreront réellement autour du sport pendant 2 jours.
Mmh. Alors, c'est vrai que cette idée d'éviter les communautarismes ségrégatifs, on va dire, voilà. Hein, c'est quelque chose de très important qui rejoint une philosophie globale d'un pays et naturellement d'une université de ce Exactement. Pays qu'est l'Université de Lille.
Voilà.
Donc, si on voit maintenant ces équipes qui sont là, bien sûr, elles sont dans le campus de Lille 1. Est-ce qu'il y a également des échanges avec d'autres campus? Est-ce que vous avez des partenariats avec des universités, des partenariats qui seraient un peu privilégiés?
Alors, nous n'avons rien pour le moment. Et l'objectif, donc, avec mon directeur adjoint Jean-Marie Carlier, ça a été de proposer au service des sports, enfin à l'ensemble des enseignants et au conseil des sports, de mettre en place une grande semaine sport dans le cadre de mixité, donc de monter une forme de mixité sport qui va durer toute une semaine, dans lequel 2 journées vont être consacrées, comme je vous le disais, à l'inter-association, donc des rencontres entre les Guinéens, les Gabonais, les Camerounais, Sénégalais, Algériens, Marocains, Centrales, BDS Polité, enfin toutes ces associations qui travaillent bien sur le campus, donc faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer. Et dans un deuxième temps, le mercredi et le jeudi, un tournoi inter-U, où l'idée serait de mettre autour des différentes activités, autour de cette activité, les 3 universités lilloises, peut-être l'Université d'Artois, et on travaille actuellement et on espère y arriver à faire venir 4 universités par tournoi, filles et garçons. Donc l'idée maintenant, c'est effectivement d'ouvrir le service des sports vers l'international. Et bon, ça va être la grosse tâche qui va nous animer pendant cette seconde partie de l'année, qui fait qu'effectivement, on va œuvrer vers ça.
Lors de l'année universitaire dernière, j'avais vu pendant une journée plein de sportifs qui venaient de toutes les régions de France qui s'étaient concentrés sur l'université de Lille 1.
Alors, on accueille le service des sports, passe ses installations à pas mal d'associations ou des écoles. Donc, régulièrement est organisé sur le campus de Lille 1 des tournois nationaux. Mmh. Cette année, il va y avoir Télécom Lille 1 qui va organiser le challenge national des télécoms. Mmh. Bon, il arrive fréquemment que Central, une fois tous les 3-4 années, organise ce type d'événement. Le NCL également organise. Donc, effectivement, le campus de Lille 1 est un lieu de challenges nationaux organisés par les différentes écoles qui sont sur le campus.
Alors pour ces challenges ou même pour l'activité d'une manière générale, il faut des équipements. Est-ce qu'on parle du bilan actuel des équipements? Allez, c'est le moment de demander. Là.
Ah non, c'est pas le moment de demander. Ah, je pense que bon, on a eu le plan campus. Je vais pas revenir sur ça. Et je crois qu'on a, moi je le dis honnêtement, on a eu la chance d'avoir un président qui a senti que le sport pouvait être un élément de vie du campus, de vie d'étudiants, de bien-être. Et le plan campus à Lille 1, c'est 8,5 millions de décidés, entre guillemets, pour les rénovations et reconstructions d'installations sportives. Donc là, c'est déjà acté. Je peux vous dire que ça a été la grande surprise pour le service. On avait bien travaillé dans ce sens-là. On avait déposé un gros dossier. Je tiens à remercier à titre personnel, je dirais, toute la direction d'université qui a su prendre... bien prendre en compte les enjeux qui sont liés à ça. Parce qu'effectivement, des installations de bon niveau, comme on vient d'en voir nous à Barcelone, c'est quand même rendre un campus attractif, c'est quand même le rendre plus attractif pour l'international, pour les étudiants du secteur, et ça permettra certainement de développer les pratiques sportives sur le campus.
C'est déjà Noël.
C'était Noël, c'était beau cadeau de Noël. Oui. Bon, maintenant, on sait qu'avec 8 millions et demi, à une époque, on faisait pas mal de choses. Mmh. Donc maintenant, on a encore un gros travail à mener avec le vice-président François Butte-Baudin pour essayer de ramener un peu plus de monde, de partenaires autour de cette question. Dans les enjeux, c'est la construction d'un double plateau de type handball à la place du COSEC, une nouvelle salle de danse 2 fois plus grande que celle qu'on a actuellement, une nouvelle salle de musculation avec un espace cardio 2 fois plus grande qu'actuellement, peut-être voir la construction d'une salle de squash, 2 terrains synthétiques pour l'extérieur, rénovation de la plaine de sport. Enfin, il y a un tas de projets là qui sont en jachère. Les débuts des travaux intellectuels avec les différents organismes vont démarrer sous peu. Voilà, donc maintenant, je dirais que c'est lancé. On espère qu'en 2014, on sera dans des nouveaux locaux, dans un nouveau gymnase, etc.
Alors, quand on veut faire du sport en plein air, c'est intéressant aussi d'avoir un air justement qui est qui est intéressant, de qualité, qui est bien respirable, qui profite à la santé. Est-ce que vous jugez que l'aspect vert de l'université, je vais dire, et l'aspect aussi de la qualité de l'air qu'on peut y respirer quand on pratique ces activités sportives est satisfaisant? Est-ce que vous avez une idée
de... Très simple, je n'ai pas de repère pour vous dire que l'air est pollué ou pas pollué. Chez Kevin Ozas, que j'ai des fois des problèmes au niveau de l'oxygénation, enfin de la respiration ou de la pollution. Je m'en rends compte quand je me déplace à l'extérieur. Campus de Lulin, je ne pense pas qu'il soit plus pollué que ce qui se passe sur Villeneuve-d'Ascq, donc c'est un problème d'ensemble. Par contre, le campus de Lulin était comme un campus relativement bien vert. Mériterait peut-être d'avoir un entretien plus conséquent, mais c'est le cas de toute la ville de Villeneuve qui a vu pousser pas mal d'arbres et qui commence maintenant à se poser peut-être des problèmes d'entretien ces espaces verts, parce que c'est quand même coûteux et agréable, mais coûteux. Je pense que dans le débat que nous avons eu avec la présidence et le vice-président, que le futur plan campus sport, entre guillemets, devrait respecter ces équilibres espaces verts et tout. Bon, pour vous dire, on va certainement mettre en place, ce qui permettra de garder des espaces verts, un pitch and putt en golf, sans avoir l'esprit golf officiel, mais quelque chose qui serait pas coûteux sur le plan écologique, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose de sobre. Hein, mais tout ça, ça contribuera à maintenir... on va dire, des espaces qui seront intéressants pour le campus. Mmh.
La proximité du futur stade de foot, est-ce que pour vous, ça, c'est une opportunité? Qu'est-ce que vous envisagez éventuellement comme collaboration?
On n'a aucune collaboration actuellement de prévue avec le grand stade, puisque c'est loué. Donc, on va avoir des installations rénovées. Je n'en vois pas trop la peine. Bon, bah, après ça, je suis citoyen Villeneuve-d'Ascq. J'ai les mêmes préoccupations que beaucoup. J'attends de voir si toutes les simulations qui ont été faites par rapport à la circulation, par rapport à la venue d'autant de monde, sera vraiment opérationnelle. Bon, j'ai quelques doutes. Donc, à titre perso, je suis dubitatif. J'aurais préféré voir ce grand stade à l'Équin, comme beaucoup de monde. Mais bon, le choix a été fait. Maintenant, il est fait. On va vivre avec.
Et est-ce que les étudiants de Lille apprécient ce voisinage et vont justement exploiter en tant que spectateurs
J'en ai aucune idée.
Ils ne vous font pas remonter d'intérêt particulier.
Non. Ça, c'est pas dans les préoccupations que je
ressens.
Que je ressens, oui.
Très bien. S'il fallait faire une conclusion, donc là, dire que vous avez a priori les moyens de vos ambitions maintenant.
Bon, nous avons les moyens de nos ambitions. Bon, on peut aller plus loin, mais là, il faut retrouver des sources de financement. Donc là, je fais confiance aux autorités universitaires pour essayer d'aller un peu plus loin dans le projet plan campus actuel. Non, je pense qu'on a... Moi, je pense que l'université a pris un bon virage depuis 2 ans. Une bonne collaboration entre le service des sports et la présidence. Je pense que la présidence, les autorités universitaires ont bien pris la mesure de la place du sport et de sa contribution originale sur le campus. Donc les choses avancent. Elles avancent peut-être pas assez vite pour nous, mais elles avancent bien. Une meilleure reconnaissance dans les formations, des pratiques autonomes associatives qui se développent bien, le sport compétition qui trouve toute sa place et qui fait que on est la première université régionale en matière sportive, compétitive. On a fini 15e nationale, toutes associations confondues, grandes écoles, petites écoles, enfin bon. Donc on est sur la voie du progrès, 25% de plus d'étudiants dans nos cours. Tout ça a fait qu'à un moment donné, je suis à la fin de mon mandat très satisfait de ce qui s'est passé depuis 3 années sur le campus. Mmh.
Fabrice Cuvillier, quelques points de repère au niveau du calendrier peut-être, des choses qui seront ouvertes au grand public, des dates, est-ce que vous en avez déjà?
On vient de finir le Téléthon, donc une grosse semaine où beaucoup de monde a participé pour cet événement caritatif. Notre prochain événement, ça sera la semaine mixité sport qui va se dérouler entre le 9 et le 14 mai. Et là, nous attendons et nous espérons toucher entre, on va dire, 2000 étudiants à 3000 étudiants si tout se passe bien.
Bien, Fabrice Cuvillier, je vous remercie beaucoup. Et donc, en attendant Noël, eh bien, profitez des quelques jours qui vous restent avant les vacances.
Merci beaucoup.
Bonne journée.